poudre vanille,
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission de Boules Vanille, votre émission estivale sur Canal B du lundi au vendredi à 17h, rediffusion du mardi au samedi à 8h le matin et bien sûr réécoute et playlist sur canalb.fr. Comme tous les vendredis, je vous proposerai une émission aux rubriques qui reviendront chaque semaine, les invisibles du cinéma numéro 2 dans laquelle Sozy Globaille a rencontré 5 professionnels du cinéma dont les noms restent bien souvent invisibles au générique pour le grand public et dont le travail est pourtant indispensable à la réalisation d'un film. On les retrouve tous les 5 dans quelques instants et puis vous retrouverez aussi le retour de Clémence qui nous a proposé dans la saison Les yeux dans la tête. Eh bien, elle proposera son dernier numéro, Les yeux dans la tête numéro 8, qu'elle consacre au cinéma documentaire et plus précisément au film Nostalgie de la lumière, Visage Village et Malavoun Tango. Ronan, quant à lui, nous propose la suite de ses morceaux de choix. Il a rencontré des mélomanes qui nous disent tout sur la chanson, le disque qui les a fait chavirer. Aujourd'hui, c'est Caroline qui nous parlera de Tom Waits et puis on terminera avec la suite de ses histoires de la Northern Soul où vous saurez tout sur ce qui est bien plus qu'un genre musical qui a fait fureur en Angleterre dans surtout les années 1970. De Boules Vanille commence donc avec Les Invisibles du cinéma numéro 2. On entendra Rémi Giordano, scénariste, dans un instant, et puis aussi Colette Caisson, productrice, Frédéric Legal, repéreur, Laura Bucher, décoratrice, et tout à l'heure Sarah Turoche, monteuse. Mais pour l'instant, Rémi Giordano parle de scénario et de mise en scène, leur lien, et puis aussi de dialogue et de comédien.
Le scénario, c'est finalement, c'est vraiment le travail préparatoire à la mise en scène, parce que c'est vrai qu'il y a tout, il y a là où on tourne, là où on va tourner, donc je sais pas moi, en tout cas, dans le cours, je réalise une... Je tourne dans une chapelle, ça se passe dans une chapelle, donc je sais qu'on ça se passe dans une chapelle, on a les actions des personnages, on a ce qu'ils vont se dire, mais après, mettre en scène, c'est choisir d'où on va les regarder, comment on va les regarder, comment on va les éclairer, comment on va les écouter, et ça, c'est pas dans le scénario, c'est la mise en scène est censée transcender le texte, donc c'est des choses qui apparaissent pas forcément à l'écrit. Et d'ailleurs, moi, mon scénario, je vais le mettre en scène parce que j'ai des images en tête. Mais si, par exemple, quelqu'un d'autre le prenait, un autre réalisateur prenait exactement mon scénario, il en ferait tout à fait autre chose.
Comment vous faites parler des personnages, alors contemporains, mais au 16e aussi? Est-ce que vous avez pris une option d'un langage contemporain pour le 16e ou bien est-ce que vous avez puisé dans la documentation pour donner un air un peu 16e ou d'analogue?
En fait, si mes personnages devaient s'exprimer comme au 16e, personne ne comprendrait, il faudrait sous-titrer le film. Et puis ça serait vraiment un lourd travail qui pourrait être très intéressant, hein, de voir presque documentaire, de se dire il parlait comme ça, il disait les choses comme ça. Moi j'ai un parti pris assez contemporain, parce que même si ça se passe au 16e, les personnages se comportent et dialoguent plus ou moins comme aujourd'hui, même si comme on est à la cour, on a forcément un peu plus d'emphase, etc., dans leur façon de s'exprimer. Et après, moi, j'ai vraiment un grand plaisir à écrire les dialogues. Et on m'a dit que j'écrivais pas trop mal les dialogues, donc ça m'a donné confiance aussi. Ça m'amuse beaucoup. Et puis, les dialogues, en fait, c'est les derniers trucs qu'on écrit. En général, voilà, on écrit vraiment tout. Et puis, les dialogues, c'est un peu la cerise sur le gâteau du scénario. Une fois qu'on a vraiment nos personnages en tête, en main, les faire parler, c'est un vrai plaisir. Je suis dans un processus de casting pour le long, et de les voir, d'entendre ces dialogues et les voir mis en bouche par des comédiens, c'est vraiment magique, je trouve. Pour le rôle d'Henri III, en l'occurrence, j'avais des comédiens en tête. vraiment, j'avais des envies et j'ai eu la chance qu'en tout cas il y en ait un qui a vraiment envie de le faire. Puis après j'ai une directrice de casting qui a aussi un métier de l'ombre du cinéma qui a lu le scénario et puis en discutant des natures de jeu, de physique, on me propose des personnes différentes qu'on voit, à qui on fait faire des scènes. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que là, d'en avoir vu même des gens que je choisirais peut-être pas forcément, ils donnent des idées pour les personnages. Alors c'est horrible parce qu'on leur pique des choses et puis après on les prend pas, mais c'est le jeu. Ils donnent des idées, enfin moi ils me donnent des idées pour le scénario et la mise en scène aussi, mais dans leur façon de s'approprier le personnage et les dialogues, ça génère des envies différentes.
Et du scénario à la réalisation, est-ce que ça bouge beaucoup l'histoire?
Ouais, le film, en fait, on dit que le film, il s'écrit au scénario, à la mise en scène et au montage après. Donc vraiment, en fait, déjà, quand on a ce qu'on a en tête, quand on le pose sur le papier, c'est différent et ça semble souvent moins bien. Donc toujours un travail à faire sur soi et sur le texte pour que ce qui est écrit ressemble au maximum à ce qu'on a en tête. Puis après, au passage à la mise en scène, normalement, ça doit être encore mieux que ce qu'il y a sur le papier. Mais un tournage, c'est difficile, c'est beaucoup d'aléas, beaucoup d'accidents qu'on peut ne pas maîtriser, donc idéalement c'est mieux que le scénario, mais ça peut être moins bien.
Quelles sont vos envies particulières à part ce tournage là qui va peut-être avoir lieu? Alors le tournage du court métrage va avoir lieu à l'automne, oui. M'avez-vous dit, et le long métrage vous le programmez dans combien de temps?
Alors mon producteur aimerait que ça soit en 2024. Moi, je serais pas contre, mais je sens que j'ai encore un travail. Je dois devenir réalisateur. Et là, je suis en phase de gestation, de réalisation. Donc, je me sens pas prêt encore à affronter un tournage de long, parce qu'un tournage de long, c'est 6 semaines. Enfin, c'est beaucoup plus long. Donc, c'est aussi, faut maîtriser des choses techniques que j'ai pas encore en main. Donc, idéalement 2024. Après, voilà, peut-être plus tard. Au plus tard en 2025, mais faut-il qu'on ait les financements et qu'on ait l'argent pour faire un film historique, un premier long historique. J'ai pas choisi le plus simple, mais moi j'aime bien les challenges.
À suivre dans Les Invisibles du cinéma numéro 2, Colette Caisson qui parle, elle, de comment elle choisit ses projets de court-métrage en long-métrage et de documentaires en film d'animation.
C'est très enrichissant en animation d'avoir un scénario fort. C'est très enrichissant en fiction de savoir accepter un peu le réel dans sa propre fiction. C'est très intéressant de fictionner du documentaire. Bon, c'est peut-être un peu charabia ce que je dis pour un grand public, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette perméabilité entre les genres et je trouve que ça permet des projets très ouverts. Et puis par ailleurs, après, c'est une rencontre, hein. Ça, c'est vraiment un truc très intime finalement. Parce que partir sur un projet, c'est à la fois évidemment prendre la responsabilité si possible de l'emmener au bout, hein. On n'a pas envie de dire à un auteur ok on y va et pour 2 ans plus tard lui dire on n'arrive pas à le monter, donc on a cette décision producteur de dire je sais à peu près ce qu'il faut faire, je sais comment l'emmener, je sais où est-ce qu'on peut trouver des financements, etc. Mais aussi j'ai envie de ce projet, j'ai le désir, hein. J'aime bien toujours citer cette question de désir parce que c'est un désir qui se transmet, on est le premier auquel un réalisateur transmet son désir, après il faut le transmettre à une équipe pour qu'elle s'investisse, puis après il faut le transmettre à un public, et avant tout évidemment en passant par là, on a dû le transmettre à des financeurs. Donc c'est aussi, est-ce que j'ai du désir fondamentalement pour ce film-là? Parce que si même moi j'en ai pas, ou pas assez, ça va être compliqué de mettre toute l'énergie, avoir l'énergie et l'endurance nécessaires à tout ce cheminement qui se déroule très souvent, même sur des courts-métrages sur plusieurs années.
Souvent, vos films participent à des sélections, alors un peu partout, j'allais dire en Europe, peut-être même dans le monde, puisque quelquefois aux compétitions de courts-métrages, alors le grand festival, c'est quand même Clermont-Ferrand, il y a aussi La Rochelle, il y a aussi Palm Springs, alors ça, je ne savais pas, je dois le dire, Locarno, enfin des mots qui font un peu rêver. Vous voyagez beaucoup, vous êtes obligé d'y aller, et ça, c'est une fois que le film a été tourné, donc l'aventure continue.
Là, vous touchez du doigt la question de la diffusion et de la distribution des films, ça, c'est vraiment la grosse question du producteur, mais très en amont, parce que c'est quelque chose qui se réfléchit dès le financement, dès l'écriture parfois. Le réalisateur spectateur a des idées dans la tête, il y a des choses qui sont réalistes ou pas de mettre en place. On cherche des partenaires en distribution dès le montage financier des films. Donc ça, c'est fondamental. Après, les festivals, c'est encore autre chose. Évidemment, on essaie de créer des liens, mais étant donné le nombre incroyable de festivals dans le monde entier, c'est très compliqué d'avoir des contacts absolument partout. Et puis, concrètement, c'est pas toujours le producteur qui accompagne. Alors, il y a des festivals majeurs comme Cannes, comme Locarno. Là, il y a un an, j'étais à Cannes avec Libre Garance. Évidemment, on y est, on accompagne la réalisatrice, on accompagne le film et le distributeur. Après, il y a des festivals moins importants où tout simplement le réalisateur est invité à l'autre bout de la planète et pas le producteur souvent. Et puis parfois, certains festivals aujourd'hui programment des films, n'ont pas toujours les moyens d'inviter les équipes. Donc voilà, effectivement, en même temps, j'ai un bon ami producteur qui dit toujours dans ce métier qui sort s'en sort. Et voilà, qui est petite blagounette, mais pour dire que c'est très important. Parfois, on n'a pas un objet particulier ou on va dans un festival, on traverse la France, on a 4-5 rendez-vous. Puis en fait, autour de ces 4-5 rendez-vous, il y a 10 rencontres qui se feront de façon comme ça, un peu par le hasard, par le biais d'une autre personne, au hasard d'un dîner, au hasard d'une fête. Et effectivement, parfois, on se dit « Ah, moi, ça m'est arrivé d'avoir en main des projets comme ça, par une discussion un soir, en disant « Ah oui, tu es en Bretagne, ah, bah, il y a tel projet, ah, bah, je vais te donner les coordonnées. » Bon. Et effectivement, c'est vraiment un métier de réseau, de rencontre, que ça soit du côté des projets, des auteurs, du financement, des festivals, de la diffusion, mais aussi des équipes. C'est aussi très important, parfois, de discuter avec un technicien. Dans l'immédiat, on n'est pas du tout de projet spécifiquement pour lui, mais on voit qu'il a une approche, un chef opérateur, un ingénieur du son, et qui a sa propre approche intéressante. Et puis, quelques années plus tard, on se dit « Ah, tilt, j'avais discuté avec ce technicien qui serait vraiment formidable sur ce projet, et puis ça se fait ou ça se fait pas. » Mais voilà, on est vraiment... J'ai tendance à dire souvent que c'est un sport d'équipe, le cinéma. C'est vraiment un sport d'équipe et les bons films, c'est le fait d'un réalisateur, mais c'est un réalisateur qui a bien su s'entourer et du coup c'est un réalisateur producteur aussi qui a su agréger autour d'eux des talents. Et c'est toujours une question de force du projet et c'est aussi parfois une question financière aussi. Est-ce qu'on a les moyens ou les conditions de travail? Tel ou tel technicien à l'image ou son, il a envie de louer telle caméra, d'avoir tel type de matériel, tel type d'équipe. Donc c'est aussi quel confort on permet un confort de travail on permet aux équipes. Et après, bah, sur les types de projets que je produis, on n'est jamais dans l'opulence. Donc c'est plutôt comment on est intelligent avec un budget, quoi. Comment on fait des choix au mieux pour un projet avec un budget qui n'est pas extensible, quoi.
Frédéric Le Gall, repéreur, nous dit quand intervient son travail sur un tournage.
Souvent, je suis le premier embauché sur un film. Hein. Généralement, je suis le seul salarié, même. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, personne d'autre avant. Souvent, il y a un directeur de prod, mais qui est entre plusieurs films, en finition d'un autre film, et il commence à préparer celui-là. Un premier assistant aussi. Mais je suis souvent le premier à commencer. Et donc, souvent, en échange avec la réalisatrice ou le réalisateur, et puis le chef d'écho s'il est déjà connu. Et donc on m'envoie un scénario et puis je pars à l'aventure pour presque tout dépend, on va dire, du projet, le nombre de décors qu'il y a à trouver. L'autre donnée, c'est l'économie de ce projet-là. Est-ce que c'est un film qui est riche ou est-ce que c'est un film qui est plutôt pauvre? Parce qu'on est, on est payé pour trouver, hein, pas pour chercher. Donc, mais en moyenne, quand même, globalement, pour un film d'une heure et demie à peu près, quoi. Donc, qui souvent a entre 20 et 30 décors différents dans un scénario. C'est à peu près ça la moyenne. On va dire que c'est à peu près 6 semaines de repérage, grosso modo.
Et une fois que le repérage est fait, vous disparaissez?
Oui, maintenant. Avant, j'étais aussi régisseur, donc souvent je faisais la régie générale. Mais depuis quelques années, je fais plus que du repérage. Donc je passe la main à un régisseur général qui lui va s'occuper de toutes les autorisations annexes pour les stationnements, le voisinage, où on met la cantine, où on se branche en électricité, où on va faire pipi. Toutes ces petites données, on va dire, plus pratiques, logistiques, autour du tournage, quoi.
Deux appartements, un palier, 5 semaines de tournage, il faut que la copropriété soit d'accord, il faut que tout le monde soit d'accord pour bloquer l'immeuble.
Ah bah alors ça, c'est le problème des appartements. C'est quand même beaucoup plus simple dans des maisons où vous avez affaire à un seul interlocuteur. Mais effectivement, quand on tourne, en tout cas dans les parties communes, il faut l'accord de la copro, tout simplement parce qu'il y a une question de droit à l'image. On a une utilisation commerciale d'image des parties communes, donc il faut qu'il y ait une contractualisation avec le syndic. Ouais. J'ai plutôt ciblé notamment des petites copros que des bars à 150 appartements, quoi, forcément, parce que c'est bien évidemment que plus il y a de propriétaires, plus il y a un risque qu'il y ait au minimum un grincheux qui ne veulent pas accueillir un tournage dans la copro. Donc plus les appartements petits, enfin plus les immeubles sont petits, plus il y a des chances que ça passe. Et là, en l'occurrence, sur le film de Karine, la chance qu'on a eue, c'est que l'appart qu'on a vite trouvé, c'est le président du conseil syndical. Donc ça a l'air plutôt bien engagé. Mais c'est effectivement une épée de Damoclès. C'est pas parce qu'on a l'accord des propriétaires que derrière la copro va accepter. Et j'ai vu souvent des décors qu'on avait validés qui s'annulent parce qu'on a un refus de la copro. Quoi.
C'est plus facile de chercher en ville ou bien de chercher à la campagne ou à la mer ?
C'est plus facile à la campagne, je trouve. Les mairies sont plus petites, donc elles sont beaucoup plus disponibles que dans les grandes villes. Et puis tout le monde se connaît. C'est-à-dire que vous allez au bistrot du coin et vous écrivez ce que vous cherchez. Et il y a forcément quelqu'un qui va avoir une idée ou penser à quelqu'un qui en aura une. Enfin voilà. En ville, c'est quand même plus dense, plus complexe, plus long. Ouais, à la campagne, ça reste assez simple. Et puis une fois que vous avez trouvé, il y a généralement c'est un seul propriétaire et le seul interlocuteur. Donc ça va plus vite aussi pour ça.
Vous cherchez des décors extérieurs aussi ?
Je peux chercher vraiment absolument n'importe quoi. Hein. Ça dépend vraiment du contenu des scénarios. On peut chercher la même journée un château, une boucherie, un bar, une plage, une forêt. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Donc, et les interlocuteurs peuvent être du coup privés, institutionnels, les départements, les routes. Il faut s'adapter un peu à tout le monde. Et c'est ça qui est souvent le plus dur. D'ailleurs, c'est pas forcément de trouver les endroits, mais c'est de trouver qui est l'interlocuteur pour vous dire oui ou non. Est-ce que vous pouvez tourner sur place ? Ça peut être un vrai jeu de piste. Ouais.
Ça fait 20 ans, vous m'avez dit que vous faites ça à peu près. Ouais. Vous avez arpenté toute la Bretagne et que la Bretagne.
Que la Bretagne et même, je dirais, essentiellement le bord de mer parce que la grande majorité des films qui viennent en Bretagne, c'est pour ça, hein, c'est pour le littoral. Donc autant il n'y a pas un chemin qui va à la mer, je pense que je n'ai pas pris au moins une fois entre Cancale et la presqu'île de Ruisse. Quoi. Les terres, je connais moins. J'aimerais bien faire un western un jour dans les Monts d'Arrée, mais j'ai pas encore eu le scénario entre les mains.
Quelles sont les qualités que doit avoir un repéreur ?
En premier, je pense que c'est un bon relationnel, parce qu'il faut être capable de parler à n'importe qui, n'importe quand. Enfin, le bon quotidien, c'est quand même d'aller sonner à des portes. Et de rentrer chez les gens, et je suis à chaque fois ça m'étonne, hein, mais généralement une demi-heure après, je repars avec 70 photos de leur maison sous toutes les coutures, avec les culottes qui sèchent et le ménage qui n'a pas été fait. Quoi. Enfin, et c'est donc faut, voilà, et ça peut être chez un châtelain ou un RMIS dans un studio, donc il faut vraiment être capable de s'adapter à n'importe qui. Après, je pense qu'il faut être curieux, il faut avoir une bonne culture générale, parce que les lieux que vous allez visiter et le contenu des scénarios peuvent parler d'absolument n'importe quoi. Enfin, genre, par exemple, si vous cherchez une ferme, c'est bien de savoir à quelle période on sème le maïs, à quelle période il va être à 2 mètres de hauteur devant les fenêtres. Si vous faites un film d'époque et qu'on vous demande un immeuble art déco, c'est quand même pas mal d'avoir un minimum d'idées de ce que ça veut dire en termes d'architecture. L'autre donnée, on parle quand même d'image, c'est-à-dire que le minimum, c'est d'avoir vu les films du réalisateur s'il en a fait avant, savoir un peu quel est son univers, ce qu'il a fait, voilà, ce qu'il aime. Parce que souvent, les réals aussi nous envoient ce qu'on appelle des moodboards. C'est une espèce de cahier de référence graphique, des ambiances qu'il aimerait coller à son film. Alors, ça peut être plus ou moins détaillé, mais Karine, par exemple, elle envoie un scénario et sur chaque séquence, il y a une référence graphique, soit extraite d'un film précédent ou d'une toile, ou elle envoie même une playlist, une ambiance musicale qui vous accompagne et qui vous guide dans ce qu'elle veut donner au final sur son film. Et franchement, c'est très utile pour pour trouver une maison si elle a besoin d'être angoissante ou au contraire joviale ou voilà, donc c'est la musique, les images, ça nous aide tout le temps en fait.
Les gens qui vous accueillent sur les tournages, ils sont rémunérés, est-ce que c'est important pour eux ou non?
Pas forcément, ça dépend vraiment des gens, mais je dirais que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment pas le meilleur argument pour accueillir un tournage chez soi, parce que ça reste ponctuel et c'est pas non plus des sommes si mirobolantes que ça. Enfin c'est assez intéressant hein, mais c'est pas non plus, on va pas gagner sa vie avec ça quoi. Puis souvent c'est quand même relativement court les tournages, donc en moyenne en Bretagne hein, enfin on va dire une maison, un appartement, c'est aux alentours de 1000 euros par jour de tournage, ce qui peut sembler beaucoup, mais c'est une vraie, enfin c'est un vrai envahissement d'une part. Et puis d'autre part, c'est une cession de droits, c'est-à-dire qu'on achète des droits, comme je disais tout à l'heure, de l'image d'une propriété. Donc c'est pour ça que c'est un montant aussi important. Je pense qu'il ne faut pas le faire pour ça. Il faut le faire parce que c'est une vraie aventure, je pense, humaine, artistique, esthétique. Et ça peut être passionnant. Et ça, c'est une nettement meilleure raison, je trouve, d'accueillir un tournage chez soi que juste un chèque, quoi.
Quand vous accueillez un tournage chez vous, vous n'y êtes pas?
Ça dépend. Enfin, il y a 2 ans, c'était vraiment plus possible du tout à cause du Covid. Mais quand même, on essaye de faire une petite place souvent quand même aux propriétaires. Enfin, moi, je me bats en tout cas souvent avec le réal et la production pour que les producteurs puissent quand même être là, parce que effectivement, c'est quand même un des intérêts pour eux. Mais deux, surtout, je pense que aussi pour l'équipe derrière, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui connaît le lieu que vous ne connaissez pas, qui sait. Les défauts de la maison, où sont les compteurs, s'il manque une clé pour une porte, enfin j'en sais rien, si la personne n'est pas là du tout, et qu'il y a 50 personnes qui attendent d'avoir la réponse à la question qu'on se pose, ça peut être pénalisant quoi. Donc non, moi je veux que les propriétaires soient présents.
À suivre dans Les Invisibles du cinéma numéro 2, Laura Bucher, décoratrice. Sozy Global a voulu avoir la réponse à la question cruciale. Décoratrice, c'est un métier artistique ou technique?
Ah, c'est une super question, parce que c'est une question que je me pose tous les jours. Et j'ai pas de réponse. Pour moi, c'est vraiment les deux. C'est vraiment un joli mélange des deux et c'est exactement ce que je voulais quand j'ai quitté l'architecture qui pour moi était trop contrainte par la législation et par... Il y avait trop de contraintes en architecture qui ne permettaient pas de créer assez selon moi. Et ce que je retrouve dans le cinéma, c'est la création, une liberté plus grande dans les décors, quoi. Le fait que ce soit éphémère, c'est beaucoup plus créatif.
Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des films historiques?
Alors oui, j'ai travaillé sur des films historiques. J'ai travaillé sur Un peuple et son roi, qui est un film sur la Révolution française, qui était donc mon deuxième projet, qui était un très très gros projet puisqu'on était à peu près 80 personnes à la décoration, ce qui est une énorme équipe, hein. D'habitude on n'est pas autant. Et ouais, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait beaucoup de dessins aussi pour le chef constructeur. C'était très intéressant, très difficile. On était le nez plongé dans les livres toute la journée à regarder des dessins, d'anciens dessins de tribunaux. On avait une équipe de sculpteurs, donc on a fait pas mal de sculptures. Il y avait aussi un serrurier qui travaillait le métal. Donc on avait beaucoup de postes très spécifiques pour pouvoir répliquer les techniques de l'époque. Ce qui est le plus beau pour moi dans la décoration de cinéma, c'est que quand c'est réussi, on l'oublie en fait. Faut pas qu'on voit le décor. Alors évidemment, pas avec des réalisateurs qui ont une esthétique très forte comme Wes Anderson ou Arnaud Dupontel, où là on peut voir que c'est du décor. Mais moi j'aime bien quand c'est juste. Et donc quand on oublie le décor et que même l'équipe sur le plateau oublie le décor, c'est que c'est réussi.
C'est intéressant ça, vous aimez être invisible quoi.
Exactement.
Deuxième assistante, première assistante, vous n'êtes pas encore chef décoratrice mais ça viendra. C'est très hiérarchisé comme secteur.
Oui, c'est très hiérarchisé. Chacun a sa place. Alors, ça dépend du projet. Évidemment, chaque projet est différent. Chaque projet apporte une nouveauté. Mais on est une équipe où chacun a son rôle. Donc on a le chef décorateur qui est vraiment le décisionnaire. En dessous, on a le premier assistant décorateur donc qui s'occupe beaucoup de logistique, de l'équipe, de la gestion d'équipe, de l'économie, puisque la décoration, c'est le seul département dans le cinéma qui gère son propre budget, qui gère sa propre équipe. Les autres départements, la machinerie, l'électricité, le HMC, donc les costumes et le maquillage, coiffure, sont organisés, s'organisent avec la production et avec la régie. Nous, on est à part, on a notre propre budget, on gère notre propre budget. Donc le premier assistant, il est là pour ça aussi. Et après, souvent, on a un second qui aide le chef décorateur au dessin. On peut avoir plusieurs seconds. Après, on a des troisièmes assistants qui sont là aussi pour nous aider à faire des courses, à monter les décors, démonter les décors. On peut avoir des stagiaires décoration aussi. Et puis autour, il y a aussi l'ensemblier, le régisseur d'extérieur.
C'est quoi l'ensemblier ?
L'ensemblier, c'est la personne qui travaille avec le chef décorateur et qui choisit le gros mobilier d'un décor. Le gros mobilier et aussi les tissus, les tapis, tous les gros éléments de décor qui va fouiller sur le bon coin, dans les Emmaüs. Il va fouiller un peu partout comme le régisseur d'extérieur, mais lui qui s'occupe des accessoires, qui viendra habiter le décor de l'ensemblier. C'est une sacrée organisation, mais ça permet du coup à chacun d'avoir, même si on travaille tous ensemble et que si on voit des choses, on se les propose et que c'est quand même un travail collectif, si chacun a ses tâches, ça nous permet d'être bien organisé et de réaliser en un temps assez court des choses plutôt pas mal, j'espère.
À suivre Sarah Turoche, qui est monteuse et qui nous parle du travail avec le réalisateur et des changements dans le métier depuis ses débuts, à elle, en 1998.
Dans l'architecture globale du film, quasiment tous les films, toujours pour la fiction, au montage, on inverse des séquences, on en supprime complètement, et ça m'arrive même qu'on supprime des comédiens. Mmh. On peut changer beaucoup de choses, l'histoire reste en général la même, mais... En fait, on s'aperçoit qu'entre l'écrit du scénario, la réalisation qui est passée par là, et tout d'un coup l'arrivée au montage, eh ben en fait, le film s'est complètement transfiguré. La matière, en fait, elle est vivante. C'est ça qui est assez étonnant. Donc nous, on repart de cette matière, on essaye d'être le plus neutre possible, d'avoir un regard vierge, on va dire, un regard nouveau, et de raconter le film avec ce qu'on a. Un des pièges au montage, c'est de pouvoir se dire « Ah, on aurait pu faire ça ». En fait, là, il ne faut jamais se poser cette question. On a une matière, on n'en aura pas d'autre, et il faut faire quelque chose avec.
Il n'est pas arrivé que le réalisateur soit obligé de retourner une séquence, de recommencer, parce que ça ne fonctionnait pas au montage ?
Ça peut arriver, mais c'est très rare, et surtout on évite de le faire, parce que c'est vraiment des problèmes de production et d'argent. En documentaire, c'est beaucoup plus fréquent de continuer à tourner, ça peut arriver, mais autrement c'est sans fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi le problème du montage, c'est que ça pourrait être sans fin. Si vous donnez les mêmes rushs à 10 monteurs, vous aurez 10 montages différents et sur lesquels on pourrait presque, entre guillemets, ne jamais s'arrêter. C'est vraiment un travail qui se passe à trois, je dirais, entre le film, le réalisateur et le monteur.
Et à un moment donné, vous savez que c'est fini ? Ou bien le réalisateur sait que c'est fini ?
Oui, à un moment donné, en général, c'est assez bizarre, mais tout d'un coup, on se dit « le film est là ». Le film est là, il a sa durée, qui n'était pas forcément celle qui était prévue. Alors évidemment, comme on est dans un métier qui est quand même un métier d'industrie, on a quand même des durées de montage. Donc instinctivement, on essaye quand même de se couler dans le temps qui est imparti. Mais après, il y a des films qu'on termine plus tôt, puis il y a des films où on dit bah non, il me faut beaucoup plus de temps, j'ai pas fini, parce qu'il y a d'autres questions qui se posent. Mais à un moment donné, le film est là, oui.
Lorsque vous dites ça, j'ai plus de temps, c'est parce que le réalisateur s'est trompé ?
C'est pas forcément qu'il s'est trompé, c'est qu'on cherche... et que des fois, on met plus de temps à trouver. Il peut y avoir une question, en effet, d'entente, de ne pas être tout à fait sur la même longueur d'onde, ce qui facilite moins les choses. Il peut y avoir des angoisses dues au fait que ça peut être un premier film et que c'est plus difficile souvent pour un réalisateur d'accepter que ce soit la fin. Ça peut être... il peut y avoir plein de choses qui font qu'on a besoin de plus de temps. À un moment donné, on dit que c'est fini. je suis monteuse depuis 1998. Beaucoup de choses ont changé. Alors techniquement, moi, quand j'ai commencé à travailler, on travaillait encore en pellicule. C'est-à-dire qu'on travaillait sur des tables de montage avec du film et des presses, qu'on coupait la pellicule avec la presse et on recollait les morceaux avec du scotch. Ce qui a changé, c'est que là, avec l'arrivée du virtuel, c'est-à-dire que les images sont numérisées et elles sont dans des machines, donc sur des disques durs. Puis, de toute façon, maintenant, on ne tourne même plus en pellicule, donc tout ce qui est tourné est de toute façon numérique. C'est vrai qu'on a gagné du temps de manipulation. Après, on s'aperçoit qu'à un moment donné, le temps de réflexion, il n'est pas compressible. Alors, c'est vrai que les durées de montage ont vraiment, vraiment baissé, enfin, ont été réduites. Les producteurs, je pense, auraient parfois aimé que ce soit encore plus, mais à un moment donné, il faut quand même un temps de réflexion, il faut essayer des choses. Moi, j'aime bien le virtuel, c'est très souple, c'est très facile de manipuler. Après, moi, j'ai adoré les années où j'ai travaillé en pellicule. C'était un autre rapport à la matière, c'est autre chose. Après, le métier reste le même, c'est-à-dire qu'il faut toujours accompagner un réalisateur et raconter une histoire.
C'était à l'instant dans De Boule Vanille, Les Invisibles du cinéma numéro 2. Nous les rencontrerons à nouveau, ces 5 professionnels du cinéma rencontrés par Sozik Le Bay la semaine prochaine dans De Boule Vanille. De la saison 2022-2023. J'espère que vous avez entendu les chroniques Les Yeux dans la Tête. Il y en a eu 7 par Clémence. Il y a eu quelques semaines sans t'entendre. Eh bien, tu reviens aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Pour nous proposer cet été 2023 pour l'émission de Boule Vanille, alors qu'on t'entend dans Crème de la Crème d'habitude, eh bien, une chronique qui va vous plonger dans la poésie du réel. 8e des Yeux dans la Tête où tu vas nous parler, eh bien, de documentaire, il me semble.
C'est ça. Cette semaine, je vais conclure la saison en toute simplicité en parlant effectivement de documentaire. Alors attention, je vais bien parler de documentaire et pas de reportage qui sont plus l'apanage des journalistes et non pas des cinéastes. Car oui, le documentaire, c'est bien une forme cinématographique et artistique à part entière, avec ses codes et même ses classiques. J'ai donc choisi 3 films qui filment des gens, des endroits, des situations et les enveloppent de politique et de poésie. J'appelle ça la poésie du réel. Je parlais de classique et le film Nostalgie de la lumière, dont vous venez d'entendre la musique, pourrait bien rentrer dans cette catégorie, toute proportion gardée. Le documentariste chilien Patricio Guzman se rend dans le désert d'Atacama, au Chili, pour y rencontrer 2 groupes de personnes bien différentes. D'un côté, les astronomes qui viennent y observer les étoiles dans un ciel limpide, et de l'autre des femmes qui ont perdu un membre de leur famille pendant la dictature de Pinochet et qui se penchent vers le sol pour creuser et tenter de retrouver les disparus. Les uns regardent vers le ciel, les autres vers le sol, et ces dernières aimeraient pouvoir braquer l'œil omniscient du télescope vers les profondeurs du désert. Les deux groupes portent en eux la même histoire nationale et le même traumatisme, et dans cet endroit figé dans le temps, où les peintures ancestrales côtoient la poussière d'os des morts et les télescopes high-tech, tous et toutes cherchent la même chose. Des traces du passé, dans les lumières des étoiles ou la poussière du désert, des réponses, car aucun ne veut oublier.
En las noches, alumbrado bajo el cabo de una vela, yo fui haciendo los dibujos. Cada vez que lo hice, eso sí, lo rompí en pedacitos que tenía que guardar por si en la noche se sobrevenía algún allanamiento. Y a la mañana siguiente era uno de los primeros que me levantaba, iba a las letrinas que estaban fuera de la barraca y los lanzaba a la letrina.
Ce film fait partie d'une trilogie autour des reliefs, des paysages et de l'histoire du Chili qui sont questionnés par des scientifiques ou par des artistes, comme celui qu'on vient d'entendre dans cet extrait. Les deux autres films de cette saga sont Le Bouton de Nacre et La Cordillère des Songes, et je vois dans ces trois films une correspondance silencieuse qui va au-delà de leur esthétique et de leur sujet. Guzman parle de son pays, son histoire et ses habitants d'une manière qu'on pourrait qualifier de poétique. Alors, je ne dis pas qu'il romantise le Chili, au contraire, il le révèle dans toute sa dureté, mais aussi dans toute sa beauté, justement. Il y a une exaltation par l'art, la musique et la caméra. En regardant ces films, vous vous laissez happer par la douceur qui s'en dégage, et cela vous permet d'être touché davantage par ce qu'il raconte historiquement et politiquement, évidemment. Vous êtes touché émotionnellement et esthétiquement, et vous comprenez alors d'autant plus la douleur et la colère qui animent les personnages, et le réalisateur lui-même.
Ah oui, je suis toujours partant si on va vers des villages, vers des paysages simples, vers des visages.
Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. Les gens y entrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format.
Dès qu'on a pris la route, on a fait escale. Mademoiselle, voulez-vous bien inaugurer ?
Inaugurer, mademoiselle.
Mais on vous demande peut-être, si vous voulez bien, pour la photographie, d'enlever vos lunettes.
Oui, oui, sans problème.
Pour qu'on voit vos beaux yeux.
Je vous prête ma baguette.
D'accord.
On aura plusieurs baguettes à disposition. Alors, vous asseyez.
Oui.
Voilà, bien centré 4, ouais. Parfait. Vous tenez la baguette, entrez-la de manière à ce qu'elle sorte du cadre, exactement, bien droit. Attention, voilà, parfait.
On va parler de choses plus légères à présent, et encore, c'est pas tout à fait le cas, désolé. On va parler de Visage Village, l'avant-dernier film d'Agnès Varda, réalisé avec l'artiste contemporain J.R. Les deux artistes sillonnent la France dans un road trip humaniste, comme Varda les aime tant, et ils s'amusent à prendre en photo les visages qu'ils croisent dans les petits villages. J'y vois une fois encore de la poésie dans cette réunion des arts, cette fusion entre photographie et cinéma documentaire. Et puis, c'était la spécialité d'Agnès Varda de nous faire des beaux films tendres où elle s'intéresse et s'émerveille de tout, y compris des poubelles, des filets de pêche et des camions. Elle nous montre que la poésie est partout, qu'on peut par hasard trouver de la beauté dans les endroits les plus reculés en fouillant un petit peu.
Guy a posé pour moi, souvent. C'était un bon modèle parce qu'il comprenait ce que je souhaitais faire. J'avais fait un autre portrait de lui, là, près de cette cabine de plage.
Ah, j'aimerais bien la voir, cette photo.
C'est comme si c'était hier. J'ai cadré comme ça. Je me souviens de l'instant précis où j'ai placé le châssis. J'ai regardé Guy, et ensuite, j'ai appuyé sur le déclencheur pour faire cette photo, cette image.
Ce film, c'est aussi un moyen pour Varda d'évoquer avec mélancolie ses souvenirs, dont les traces sont conservées par l'art et les lieux. Alors ça, c'est la partie un peu moins légère, on va dire. Sur une plage, elle se souvient d'un modèle qu'elle a photographié. Avec nostalgie, elle tente de recréer cette image du passé, tout en la modifiant un peu, car ce n'est malgré tout pas la même image, pas le même modèle, et pas le même moment. La poésie cherche ses racines dans la mélancolie et la nostalgie. Elle s'accroche aux souvenirs et ne les laisse pas partir. Au contraire, elle les ramène au présent et les affiche avec fierté, comme cette photographie qu'elle colle en très grand sur un vieux bunker. Aujourd'hui, la photo n'est plus là et Agnès Varda non plus, mais le film, lui, existe encore. Et moi, je m'en souviens. Le dernier film est sorti en 2022, donc tout récemment. Et je préviens d'abord que vous allez avoir du mal à le trouver si vous voulez le voir, parce qu'il n'a malheureusement eu droit qu'à quelques diffusions en festival, du moins pour l'instant. Donc je veux parler de Malavoun Tango, réalisé par Jean-Marc Lacaze. Le documentariste est allé à Mayotte pour rencontrer et suivre avec sa caméra le quotidien des hommes comoriens sans papier, condamnés à la survie entre ville et forêt. D'emblée, on est confronté à la dureté de leur vie. Rejetés par l'État français car considérés comme immigrés illégaux, rejetés par la société musulmane car amis avec des chiens errants considérés comme impurs, ces hommes n'ont en fait pas d'existence. Ils sont comme les chiens, et ils font cette comparaison eux-mêmes d'ailleurs. Rejetés, pourchassés par les autorités et même parfois tués, ils sont malgré eux réduits au rang de bêtes errantes. C'est un sujet grave et politique, et très touchant d'ailleurs, qu'a choisi Jean-Marc Lacaze, et il le politise d'autant plus que lui, contrairement aux médias dominants, donne une parole pleine et ininterrompue à ses personnages. Loin d'être misérabiliste ou moralisateur, il donne à voir une réalité qu'on a eu peu l'occasion de connaître, tout en la sublimant avec sa caméra. Alors la poésie de ce film vient du regard humain et humaniste qu'il porte sur ses protagonistes. C'est un film du quotidien, une tranche de vie presque, sauf que cette tranche de vie a le goût de la terre et du sang. Le réalisateur prend soin d'habiller toute la violence de ce qu'il filme d'une beauté naturaliste, sublimant la nature, les hommes et leurs interactions, à l'aide du montage visuel et sonore. Ce que j'aime dans ce documentaire, c'est qu'il n'est pas seulement descriptif, comme je disais, c'est pas un reportage. En plus de montrer ce qu'on ne voit jamais, il exprime derrière un discours politique, celui des personnes concernées. Et ce discours ne passe pas simplement par les mots, mais par tous les outils cinématographiques dont il dispose. Jean-Marc Lacaze fait du documentaire, et surtout, il fait du cinéma engagé, contemporain, politique et esthétique, et tous ces éléments se combinent pour former un film inoubliable. Pour finir, Nostalgie de la Lumière a été projeté à l'occasion du festival Travelling en février dernier à Rennes, et il est disponible en DVD et en streaming. Visage Village est trouvable facilement aussi, et c'est vraiment une chance d'avoir accès à ces beaux films. En revanche, Malavoun Tango est bien plus difficile à trouver, malheureusement. Heureusement, il a été diffusé en mai pendant le festival Images de Justice, organisé par l'association Comptoir du Doc, et a même gagné à cette occasion le prix des étudiants. Sur ce, je vous souhaite un bon été de soleil, de films et de poésie.
Merci Clémence, on te retrouvera eh bien, pour une nouvelle saison des Yeux dans la Tête, ce sera à partir de septembre 2023. Bon été à toi.
Bon été.
C'est à présent Ronan Chaplin qui nous propose sa chronique Morceau de choix numéro 2.
Morceau de
bravoure.
Hacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Le morceau.
Emporter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Alors, mon morceau choisi, c'est All the World is Green de Tom Waits sur l'album Blood and Money 2012. I fell into the ocean. You became my wife. Rested all against the sea to have a better life. Marie, you are the wild blue sky. Men do foolish things. You don't care. J'ai connu Tom Waits quand j'étais petite avec mon grand frère. Avec l'album du film de Coppola, Coup de cœur, donc One from the Heart, j'aimais beaucoup. Ce qui me plaît dans cette chanson, c'est que je trouve qu'il a une voix de un peu de grosse brute ou de gars bien bien abîmé, et c'est quand même une chanson qui essaie d'être douce. Ça m'évoque un petit peu un espèce d'éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est ça, un espèce de gros ogre qui veut tout effacer le passé et essayer d'être discret. Quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'il avait en effet un physique de gros ogre à cause de sa voix, alors qu'en fait il est plutôt gracile, voilà. Summer brings. It's a love you'd kill for. And all the world is green. J'aime bien aussi les paroles de la chanson qui parlent de monde qui est vert, de mer, de terre, de pardon. Et en même temps, on a l'impression que quand même il y a quelque chose d'un petit peu déséquilibré qui se prépare, parce que ça parle aussi de mort, de tombe. Donc j'ai l'impression que c'est une espèce de moment suspendu avant que éventuellement les choses basculent à nouveau vers quelque chose de plus grave. We can bring back the old days again. Ce que j'aime bien aussi, c'est que des fois je trouve qu'on sent ce déséquilibre un peu dans la chanson elle-même, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de petits contretemps, parce que des fois il n'y a pas toujours exactement le même nombre de syllabes et il les place toujours avec souvent avec un quart de seconde de déséquilibre, et du coup ça donne l'impression qu'il hésite, qu'il balance un peu, qu'il hésite à y aller, et du coup je trouve que ça donne à cette chanson une grâce absolue. He's balancing a diamond on a blade of grass. The dew will settle on our graves when all the world is green.
Et pour terminer, De Boule Vanille aujourd'hui, votre émission estivale sur Canal B, eh bien ce sera Histoire de la Northern Soul, deuxième partie, où je vous dis tout sur ce qui est bien plus qu'un genre musical. Là, on va évoquer trois artistes, trois chansons mythiques qui ont été diffusées dans ces soirées-là. La première, celle de Billy Butler, le morceau Right Track, un single sorti en 1966 sur le label OK, a été abondamment diffusé au Twisted Wheel club qui a existé entre 1963 et 1971 à Manchester, qui est un club concert, hein, où vous auriez pu y voir dès 1963 le Spencer Davis Group, par exemple, avec Stevie Winwood, et puis ça deviendra un club où les DJ s'emploieront à faire danser des fans de musique noire américaine, de soul, donc sur des labels comme Rectic, Brunswick ou bien OK, tous les samedis de 11h du soir jusqu'au dimanche 7h30 du matin précisément. Et puis après ça, il fallait rentrer à la maison hein, pour les danseurs et les danseuses. On écoute donc ce Right Track, Billy Butler, sorti, je vous le rappelle, donc en 1966 pour le label OK, qui est un des plus anciens labels américains, puisque fondé dès 1918.
Seems to go wrong. Well,
En 1978, le Wigan Casino dans le nord de l'Angleterre, donc pas loin de Manchester, a été déclaré meilleur club discothèque au monde. Et oui, devant les clubs new-yorkais comme le Studio 54 par exemple, on pouvait y entendre ce morceau, pourtant pas du tout d'époque, puisque le Wigan Casino a ouvert ses portes entre 1973 et 1981. Et ce qu'on entendait à l'instant, ce titre de Don Warner, Tearstained Face, eh bien, datait de 1967 et c'était une sortie d'un micro-label nommé Queen V. Le label Queen V a été en activité dans les années 1960 et 1970. C'était basé à Sheffield dans l'Alabama et peut-être sorti d'autres morceaux hein, qui ont été considérés comme des classiques instantanés pour les DJ qui sont tombés dessus par hasard dans un trip d'achat de 45 tours aux États-Unis, comme ils commençaient à le faire dès le début des années 1970. Et c'est là aussi sans doute qu'ils ont découvert la pépite qui va suivre et nous aider à terminer De Boule Vanille aujourd'hui, le titre extraordinaire de Don Thomas, Come on Train, sorti pour un label New VJ en 1973 qui n'a pratiquement rien sorti d'autre que ce titre-là qui allait faire les belles heures de ce qu'on allait appeler la Modern Soul qui était aussi joué par les DJ qu'on retrouvait notamment au Wigan Casino. On termine donc avec Don Thomas, ses histoires de la Northern Soul numéro 2 qui reviendront bien sûr la semaine prochaine dans De Boule Vanille. À bientôt pour de nouvelles aventures et bel été sur Canal B. Ciao. Gotta find my own baby. I've been gone too long. Gotta find my baby. Oh, train, come on. Hey, it's 2 o'clock in the morning and I haven't made my way back home. You're standing here in the salty. Train to come on, oh come on, train, train, come on, train, hey, train, yeah, come on, yeah, train, oh yeah, yeah, come on, train, train, oh, 7 months and 2 lonely days, I've been away from home, traveling from country, city to city, trying to find somewhere to belong, so come on. It's not too late, so come on. Oh,